minutes d'histoire.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Pour ce quatrième numéro de 20 minutes d'histoire, nous accueillons aujourd'hui Olivier Coquart, professeur d'histoire en première supérieure au lycée Henri IV.
Bonjour.
En cette semaine anniversaire pour Transhistoire, quoi de plus historique que la date du 2 décembre, n'est-ce pas Florent ?
Oui Charles, car le 2 décembre, ce n'est pas seulement le jour de la catastrophe de Bhopal en 1984.
Ni seulement la proclamation de la République au Laos en 1975.
Pas plus d'ailleurs que la naissance de Michael Youn en 1973.
Ni celle de Nelly Furtado en 1978.
Non Charles, le 2 décembre n'est même pas seulement la date de diffusion du premier numéro de Transhistoire il y a déjà un an.
C'est aussi, et surtout, cher Florent, un quadruple anniversaire.
Celui du sacre de Napoléon Ier en 1804.
La bataille d'Austerlitz en 1805.
Le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte en 1851.
Et le sacre de ce dernier en 1852.
Olivier Coquart, vous êtes spécialiste de Jean-Paul Marat et vous avez publié une biographie de cet auguste personnage chez Fayard. Avec vous donc, nous souhaiterions revenir sur le bonapartisme et plus précisément sur la mémoire du bonapartisme.
À l'occasion du bicentenaire de la victoire d'Austerlitz, Michel Alliomari, alors ministre de la Défense, est invité par la Fondation Charles de Gaulle sur les terres qui ont vu la victoire de l'empereur. À cette occasion, le président de la Fondation déclarait « Le 2 décembre 1804, celui qui en 1792 était capitaine d'artillerie est sacré à Notre-Dame empereur des Français. » Et un an plus tard, jour pour jour, il remporte cette éclatante victoire. N'est-ce pas merveilleux ? Olivier Coquart, que pensez-vous de l'aura qui entoure aujourd'hui l'épopée napoléonienne?
Je pense que le terme d'aura est très très bien choisi, surtout si on le met en relation avec le qualificatif « n'est-ce pas merveilleux » qui clôt la citation de l'excellente Michel Alliomari dont vous venez de faire part. C'est une aura qui est très révélatrice d'une part de l'attachement global des Français, ça fait partie de l'identité de la France, à leur histoire. On sait par exemple que c'est en France que se vendent le plus de livres d'histoire, que les émissions d'histoire ont toujours un très très grand succès. Et d'autre part, eh bien, cela montre l'importance pour tous les pouvoirs politiques en France, mais probablement partout ailleurs, de se ressourcer dans une histoire de type mythologique et légendaire. Et de ce point de vue-là, la destinée de Napoléon Bonaparte était évidemment pain béni.
Mais justement, dans quelle mesure cet attrait pour une histoire, donc vous avez dit mythologique et légendaire, donc cet attrait pour une histoire légendaire et mythologique est-il conciliable avec un enseignement rigoureux, je dirais, de l'histoire ? Il s'agit d'une histoire vécue et mémorielle, et est-elle aussi légitime que celle que vous enseignez, par exemple, en classe préparatoire ?
D'abord, j'enseigne aussi l'histoire des mythes en classe préparatoire. Le mythe est un objet d'histoire, de même qu'il est un objet de réflexion philosophique, psychanalytique, que sais-je, littéraire, que sais-je encore. Deuxièmement, j'ai un peu tendance à penser que le mythe fait l'histoire, c'est-à-dire qu'on vient à l'histoire parce qu'on a entendu des belles histoires quand on était petit, parce qu'on a lu Alexandre Dumas, parce qu'on s'est esbobé devant les prouesses de Jean Marais dans les films d'André Unebel, et parce qu'on est convaincu qu'il faut comprendre pourquoi si on ne vient pas à Lagardère viendra à nous. De la même façon, le merde de Cambronne fait partie de cet espace mythifié qui peut attirer toute une série de jeunes filles et de jeunes gens vers la passion pour l'histoire. C'est un peu ce qui a d'ailleurs été mon propre cas, même si ce n'est pas le merde de Cambronne qui a été à l'origine. Quant à la légitimité de cette histoire vécue et mémorielle, bah oui, elle est aussi légitime, c'est une autre histoire. Mais elle a toute sa légitimité de la même façon que chez un marchand de légumes, le cajot de poire et le cajot de pomme ont tous les deux leur légitimité, c'est pas le même fruit.
Donc justement, dans une question plus technique, est-ce que vous partagez l'avis de l'historiographie récente qui tend à revaloriser l'image de Louis-Napoléon Bonaparte au détriment de celle de son oncle qui, mis à part ses conquêtes militaires, aurait finalement moins restructuré la France que son neveu ?
Donc là, vous ne vous adressez plus au professeur d'histoire.
Oui, je m'adresse au professeur d'histoire et aux chercheurs.
Ah, parce que si vous vous adressez au professeur d'histoire et aux chercheurs, il vous répondra, ce qui donc est mon cas, ça n'est pas mon problème. Je n'ai pas apporté de jugement sur le fait qu'on aime telle ou telle figure historique. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, cette revalorisation de Napoléon III, de Napoléon le Petit, au détriment de Napoléon Ier, elle est assez significative d'un certain nombre de choix politiques ou d'orientations politiques de notre société contemporaine. Ça, je peux le constater. Je ne peux pas vous dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. Non seulement je ne peux pas le vous dire, mais Pour être clair, ça m'intéresse très très modérément.
Et justement, vous dites que c'est le reflet de choix politiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Mais là, les vieux mais respectables travaux de René Raymond sur les droites en France, ça fait bien identifier le phénomène du bonapartisme dans ces deux stades. Hein. Le stade de Napoléon Ier avec un très fort jacobinisme, très fort interventionnisme, et puis le stade Napoléon III avec un rôle croissant du libéralisme dans l'organisation politique. De ce point de vue-là, l'évolution actuelle du présidentialisme français qui donne en effet au libéralisme un poids beaucoup plus important que ce qu'on connaissait à l'époque de Charles de Gaulle, ce poids-là me semble à mettre en parallèle avec la revalorisation de l'image de Napoléon III. Cela dit, c'est très compliqué parce que l'un des biographes politiques de Napoléon III, c'est Philippe Séguin, qui était le porteur d'une certaine idée de la France, tout imprégnée de l'ombre portée du grand Charles.
Pour revenir aux questions mémorielles, quel lien vous feriez entre les mémoires bonapartistes d'un côté et les mémoires révolutionnaires sur lesquelles vous avez davantage travaillé de l'autre ? Est-ce qu'on est dans une logique de concurrence, de complémentarité ?
Sans vouloir plonger mes racines en Normandie, puisqu'elles n'y sont pas du tout, il y a un peu des deux. L'exemple, c'est celui du père de Marius, qui est dans les Misérables de Victor Hugo, hein, qui est à la fois ancien soldat de Napoléon et ancien révolutionnaire jacobin. C'est également le souvenir de ce personnage dans La vie d'un simple d'Émile Guillaumin, qui assure la transition entre l'épopée révolutionnaire et impériale et le 19e siècle. Autrement dit, le 19e siècle a porté le lien entre la Révolution et l'Empire. Pas complètement stupide de dire que lorsque Georges Clemenceau dit que la Révolution est un bloc, il met dedans le code civil, il met dedans les préfets, autrement dit, il met dedans un certain nombre d'acquis bonapartistes, comme il met dedans la répression contre la chouannerie ou les massacres terrifiants qui ont été associés à la conquête bonapartiste. Voilà, donc il y a une complémentarité évidente et il y a en même temps une concurrence parce que entre les bonapartistes héritiers de l'institution napoléonienne et les jacobins héritiers de l'institution robespierriste ou terroriste, eh bien, il y a de véritables lignes de fracture. Cela étant, une tradition pas très attestée, mais intéressante en tout cas, veut que sur la table de chevet de Napoléon Bonaparte, il y ait eu pendant très longtemps les chaînes de l'esclavage de Jean-Paul Marat. Donc ça fait une espèce de synthèse qui montre toute la complexité de ce genre de détermination entre concurrence et complémentarité pour deux phénomènes qui tous les deux ont profondément imprégné notre mémoire politique au 19e et au 20e siècle.
Et justement, si on rebondit sur cette figure de Marat, si on passe des deux Napoléon donc à cette autre figure historique à laquelle vous avez consacré vos recherches, est-ce qu'aujourd'hui la mémoire d'un personnage aussi sulfureux est possible dans le cadre républicain qu'on connaît ?
Je ne sais pas si elle est possible, mais elle est. En tout cas, ça c'est une certitude. Il fait partie des gens qui reviennent régulièrement à la radio, à la télévision. Elle attire d'ailleurs des acteurs plutôt intéressants. Vittorio Mezzogiorno, Jean-Yann, Antonin Artaud. Enfin, ça fait un panel plutôt baroque. De toute façon, je crois, pour en revenir au point de départ, que la mémoire historique, dans ce qu'on pourrait appeler les lieux de mémoire, il s'ancre sur des événements frappants, pas forcément sur des contenus, parce qu'il est vrai que pour mon camarade Jean-Paul Marat, on pourrait trouver des contenus tout à fait détestables, et il y en a développé dans ce qu'il dit, mais le personnage est lui-même porteur de fascination. C'est un vrai personnage étonnant, avec des comportements incompréhensibles. Il a fasciné immédiatement et il a pu absorber cette part de mythification qui fait qu'au 19e siècle et au 20e siècle, il est l'un des personnages que l'on connaît. Puis il peut remercier David aussi.
Donc, monsieur Coquart, pour finir sur une note un peu plus légère, que diriez-vous de vous prêter au jeu du ni oui ni non, avec une difficulté supplémentaire, puisque dans 20 minutes d'histoire, c'est ni oui ni non, ni Napoléon. Le principe est tout simple, on va vous poser quelques questions directes, on va vous demander des réponses au tac au tac, et sans utiliser ces trois mots, ni oui, ni non, ni Napoléon.
Vous me donnez la possibilité de répondre à votre proposition ou de toute façon je dois faire le jeu?
C'est comme vous le souhaitez, dans un esprit d'ouverture et de...
Ah bah si c'est dans un esprit d'ouverture, je suis obligé d'accepter alors.
Ah bah très bien.
Est-ce que vous allez faire quelque chose le 2 décembre?
C'est très probable. Je vais faire cour à vos successeurs. Je vais leur infliger d'horribles choses sur la Grèce ancienne. Je m'en réjouis d'avance.
Et si on vous dit concordat, lycée et code civil, vous pensez à quoi?
Que du bonheur.
C'est-à-dire vous...
Le lycée, que du bonheur. Le concordat, la place de la Concorde, l'endroit où on a guillotiné Louis XVI, c'est formidable. Le code civil, celui qui assure l'égalité devant la loi. Bon, même si pour la première mouture, on ne peut pas considérer que l'égalité était équivalente pour les hommes et pour les femmes. Bref, c'est une très belle idée. Voilà ce que ça m'inspire.
Et est-ce que vous pensez que Marat aurait pu être bonapartiste?
Je suis convaincu que Bonaparte aurait dû être maratiste.
Les massacres de septembre, c'est Marat ou pas?
Non, ce sont les massacres de septembre. Ah! Je suis désolé, je me suis laissé piéger.
Et qui a terminé la révolution? Napoléon Ier ou Napoléon III?
Les membres du jury de l'École normale supérieure de Lyon qui ont proposé ce sujet à la session 2007 ou 2008. On termine la révolution.
Parfait.
Bien, monsieur Olivier Coquart, merci d'avoir bien voulu participer à l'émission anniversaire de Transistor. Chères auditrices, chers auditeurs, cette première année en votre compagnie fut un vrai plaisir et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour encore plus d'histoire et encore plus de minutes.
Chères auditrices et auditeurs de 20 minutes d'histoire, ma chronique portera aujourd'hui sur le documentaire de Jérôme Prieur, Le mur de l'Atlantique, monument de la collaboration, qui doit être diffusé ce soir même au Comédia à 20h30. Vous aussi sûrement, dans vos vacances, que ce soit sur les plages bretonnes ou landaises, vous avez dû voir ces immenses blocs de béton laissés à l'abandon, souvent tagués, dans lesquels les enfants vont chercher le monstre qui s'y est caché. Et monstre il y a. C'est contre cet abandon, non seulement physique mais aussi mémoriel, que M. Prieur a voulu ériger son documentaire. Ces blocos pâtissent de la honte, celle de la collaboration économique la plus active entre la France vichiste et l'Allemagne nazie. Les archives insérées dans le documentaire sont éloquentes. Le reportage filmé sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, destiné à la propagande, vante la dimension titanesque des travaux. Je cite « Un canon lourd tous les 300 mètres, 6000 pièces d'artillerie réparties sur des milliers d'ouvrages fortifiés, tandis qu'au large des millions de mines flottantes ont été mouillées, sur les plages, on voit à perte de vue les fils barbelés, les pièges, les défenses qui s'opposeront à l'avance des formations motorisées. » Fin de citation. On rappelle à l'envi que 10 millions de tonnes de béton ont été utilisées et que la file de camions chargée du béton nécessaire représenterait une fois et demie le tour de la Terre. Mais qui est à l'origine du chantier qui représente encore aujourd'hui la trace la plus visible de l'Europe nazie? Ce sont les entreprises Todd, en premier lieu, sous la direction d'Albert Speer, l'architecte bien connu, proche d'Hitler. Mais c'est un système qui met en lumière tous les mécanismes spécifiques aux années noires. Todd et les entreprises allemandes, au nombre de 200, construisent le mur. Mais pour cela, elles font appel à des sous-traitants, des entreprises françaises, parisiennes ou locales. Des dizaines de milliers de travailleurs français furent ainsi mobilisés, ainsi qu'environ 1500 entreprises du bâtiment. Au printemps 1943, soit au plus fort de l'activité autour du mur, ce seront 200 000 travailleurs français, volontaires ou requis, qui profiteront de cet immense chantier pourvoyeur de travail. Replongeons-nous dans le contexte. Les autorités vichistes cherchent une place de choix pour la France au sein de l'Europe allemande qui se dessine jusqu'en 1942. De plus, le bassin d'emploi que représente la construction du mur de l'Atlantique repousse le spectre du chômage qui hante la politique du pays depuis la crise de 1929. Et cette réussite est tout autant bénéfique pour la propagande du régime que pour l'économie et la société. Là où un ouvrier français pouvait toucher 1000 à 1500 francs dans une entreprise française travaillant dans le marché français, à cause du blocage des salaires, dans une entreprise Todd, il pouvait gagner jusqu'à 3000 francs. S'ajoutent à ces salaires des primes de séparation pour faire venir les pères de famille, des primes de logement et même des primes de bombardement dans les chantiers de bases sous-marines comme celle de Bordeaux. Il ne faut pas oublier non plus que ce sont les frais de l'occupation allemande sur le sol français qui ont construit le mur de l'Atlantique. Cette somme constituait l'équivalent du budget de la France, premier contributeur européen, de fait, au régime nazi. Ce fut un pillage économique de grande ampleur. Et lorsque la carotte du salaire ne suffit plus, les entreprises allemandes réquisitionnèrent les populations locales pour des tâches aussi humiliantes que la vidange des latrines. L'asservissement, dont le mur est le symbole, rend la mémoire locale très difficile, notamment parce que tous les secteurs furent mobilisés, jusqu'à l'agriculture, chargés de nourrir les centaines de travailleurs nouvellement arrivés sur les côtes. Les Espagnols exilés depuis 1936, les travailleurs polonais, mais aussi les Français qui n'étaient pas de la région où étaient construites les fortifications, subirent de nombreux actes xénophobes. Des camps surveillés furent dressés, certains travailleurs numérotés. Et pourtant, cette immense ligne Maginot qui courait des Flandres à l'Espagne ne tint que 4 heures le 6 juin 1944 si l'on excepte Omaha Beach. Une fois la tête de pont formée, les Alliés purent contourner un mur d'autant plus inutile qu'exclusivement tourné vers l'Atlantique. Que reste-t-il aujourd'hui d'une des plus grandes forteresses que le monde ait connues? Le musée du Grand Blockhaus de Basse-sur-Mer donne à voir ce qu'étaient ces constructions il n'y a guère que 60 ans. Des habitations lambrissées, structurées par des portes blindées et des pièces dédiées au commandement ou à la stratégie. C'est d'ailleurs à la vue des conditions de conservation de ces monuments que l'on s'interroge. Des vestiges baignent dans l'eau, une carte encore lisible il y a quelques années est aujourd'hui effacée. La mémoire du mur est-elle encore si enfouie qu'elle ne permette pas d'éviter l'effacement progressif d'une des traces les plus concrètes de cette époque? Le documentaire de Jérôme Prieur a le mérite d'ouvrir le débat. Il s'engouffre dans un des angles morts de l'histoire française contemporaine, grâce à des interventions aussi prestigieuses que celles de Robert Paxton ou d'Olivier Vivirka. L'équipe de 20 minutes d'histoire vous encourage donc très vivement à aller au Comédia ce soir. Les archives de l'époque, restaurées mais respectées, et les vues des blockhaus dans les paysages d'aujourd'hui complètent une belle présentation de ce qui n'est encore qu'un lieu d'oubli.